Tu écoutes un balado de Squat Télé-Québec.
Cœur de cristal, épisode 8, orage au QG.
Ici bébé Yoda. Ici bébé Yoda. Alerte de proximité. M'entends-tu, maman Yoda? Il y a des gens qui s'en viennent à la mine. Je répète, il y a des gens qui s'en viennent à la mine. M'entends-tu, Sao?
Hein? Comment tu sais?
La fréquence des walkies a bugué, puis... Oh, c'est trop long à expliquer. Mais je peux te jurer qu'il faut bouger, puis vite, parce que Bill Fichet s'en vient inspecter la mine.
Oh merde, faut qu'on aille camoufler nos traces.
Oui, puis il faut absolument cacher l'humaine et Décibel. Pas de panique. Direction la mine, puis si on arrive avant eux, on se fera un plan de match. Go, go, go!
Amaryllis et Vania sont les premières sur les lieux. À leur grand soulagement, l'entrée de la mine est déserte. Elles cachent rapidement leur vélo à la lisière de la forêt et se précipitent vers l'entrée.
Maman Yoda, bébé Yoda, est-ce qu'il y a des intrus au QG? Je répète, est-ce qu'il y a des intrus au QG?
Négatif. On est arrivés les premières, mais ils vont peut-être arriver avant toi. C'est quoi la priorité? Les robots!
OK, le plan. Faut s'occuper des robots, mais aussi de nos affaires qui traînent. Vania, tu fonces dans la mine puis tu caches tout ce que tu peux. Décibels et lumières inclus. Ama, tu surveilles l'entrée, puis si tu peux, tu fais diversion. J'arrive.
OK, Charles et moi, on s'en occupe.
Compris. 10-4, terminé.
Vania disparaît dans la mine pendant qu'Amaryllis grimpe et se cache derrière une petite corniche près de l'entrée. De là, elle a un point de vue parfait pour voir arriver les intrus. Le temps est de son côté. Vent et nuages estompent les couleurs vives de ses vêtements et couvrent la falaise d'ombre et de poussière qui force à plisser les yeux.
Maman Yoda, je suis au-dessus de l'entrée. Je suis prête pour la riposte.
Bien reçu. Je suis plus très loin. Terminé.
Lumen! Lumen! Oh, on est donc bien traîneuse.
Fébrile, Vania se hâte de réunir le cadenas de vélo d'Ama, la casquette de Sao, une chemise carottée à elle et des déchets de lunch. Elle roule le kit d'électronique, saisit le coffre à outils, puis dépose le tout dans la cage d'extraction, faute de trouver une meilleure cachette.
Oh, j'ai failli oublier les plans!
En détachant les feuilles du babillard, elle remarque avec surprise des ajouts sur son plan de la mine. D'autres galeries ont été crayonnées, des endroits que les filles n'ont pas encore explorés. Elle met la carte dans son sac à dos après l'avoir pliée et sort du bureau.
Lumen! Crime, y aller où? Faut se dépêcher!
Croyant entendre du mouvement, elle se dirige vers l'endroit où Décibel se trouve.
Lumen, t'es là!
Le robot se trouve à côté de Décibel. Il semble attendre quelque chose.
Allez, viens! Prends ton ami, faut aller se cacher! Allez, Lumen, viens!
Lumen regarde Vania en clignant des yeux. Visiblement, et elle ne comprend pas ce que la petite essaie de lui dire. Vania s'agrippe à son bras et tente de le tirer sans succès.
Mais allez, ils s'en viennent, les gens!
Lumen pointe la gourde que Vania a dans les bras, puis regarde Décibel.
Ici bébé Yoda, cible en vue. Maman Yoda à couvert, je répète, à couvert. Bien reçu.
Oh non, nous on n'est pas encore cachés!
Dépêchez-vous, ils sont presque là.
Non, Lumen, il n'y a pas de goutte maintenant.
Visiblement, le robot ne comprend rien à ce que son ami lui dit.
Mais allez! Il nous faut plus de temps! Il nous faut plus de temps!
On va t'en donner, Ivan. Maintenant, silence radio.
Saumaï se jette derrière un arbre. Dès que le camion est passé, elle abandonne Frankenbike dans un fossé et longe la route en catimini vers l'entrée de la mine. L'espionne arrive juste à temps pour voir les portières du véhicule s'ouvrir. Quatre têtes émergent du camion. Le garde forestier sous son chapeau de cow-boy et trois hommes habillés tout en noir, coiffés de casquettes identiques. Un peu paniqué, Saumaï repère un gros caillou et le lance dans un arbuste touffu non loin du camion. Bill tourne la tête.
Qu'est-ce que...
Mais ne voyant rien autour du buisson, reporte son attention vers la mine. Il se met ensuite à genoux pour examiner minutieusement le sol.
Il y a des traces par terre. C'est pas des traces d'animaux.
Les trois hommes ne disent rien. Ils observent attentivement le paysage, un peu à la manière de chasseurs, ce qui donne la chair de poule à Sao. Un grand moustachu prend des photos et note des choses sur son calepin. Pendant ce temps-là, dans l'obscurité de la mine, Vania essaie désespérément de faire venir l'humaine avec elle.
Ok, Lumen, tu veux qu'on mette des gouttes dans le décibel, c'est ça?
Lumen fait oui de la tête.
Ok, ben, viens dans la cage d'extraction, on va mettre des gouttes dans son cœur. Oui, c'est ça, prends-le, viens-t'en. Vite, vite! Ok, je ferme l'électricité puis je vais te rejoindre à la cage d'extraction.
Lumen soulève le robot inanimé pendant que Vania s'élance vers le levier qui ferme l'électricité de la mine. Du coin de l'œil, elle remarque que les plantes qui recouvrent décibel semblent avoir encore poussé. Puis, Vania s'entasse avec Lumen dans la cage d'extraction qui s'enfonce dans les profondeurs.
Mission accomplie! Terminée!
Amaryllis trouve une grosse branche. Elle se positionne comme une lanceuse de javelot et tente un tir. Mill se redresse brusquement.
Quoi encore?
La branche est passée à 2 cm de son chapeau. Cette fois-ci, il se dirige vers le buisson et observe les alentours.
Bébé Yoda à Vanne, il reste plus beaucoup de temps avant qu'il rentre dans la mine. Silence radio!
Sceptique, le garde forestier passe ses pieds dans les buissons, à la recherche de quelque chose ou de quelqu'un. Pendant ce temps-là, les trois gaillards inspectent l'entrée de la mine. Bill les rejoint après n'avoir rien trouvé.
Messieurs, on ferait mieux d'entrer pour vérifier l'état de la structure.
À l'aide de son pied de biche, Bill arrache les planches de l'entrée.
Par ici, messieurs. Attention où vous mettez les pieds.
58, 59, 60!
Amaryllis jaillit de sa cachette et se rue vers la voiture. Voyant son ami courir, Saoma la rejoint près du véhicule.
La clé est encore sous le contact. Ouh, le frein à bras!
Bonne idée, enlève-le!
Orage violent imminent. Restez.
Sa mission accomplie, Amaryllis sort du véhicule et suit Sao derrière un arbre. Privé de frein à bras, le camion commence doucement à reculer en suivant la pente devant l'entrée placardée. À l'intérieur de la mine, le son de la radio est repris en écho par les parois de la roche.
Qu'est-ce que c'est ça?
Les hommes qui le suivent se contentent de hausser les épaules.
Merde, ça doit être mon char!
Bill sort en courant de la mine pour constater que son véhicule a commencé à reculer tout seul. Dans leur cachette, Amaryllis et Saoma se tiennent les côtes en étouffant leur rire. Poursuivi par Bill, le camion continue sa descente tranquillement jusqu'à se buter tout en douceur sur une souche d'arbre un peu plus loin.
Voyons, que c'est ça mon champ qui part seul?
Bill atteint son véhicule, éteint la radio, puis regarde aux alentours en se grattant la tête.
Il va falloir que je fasse vérifier mon frein à bras.
Les trois hommes en noir le rejoignent en marchant d'un pas constant, comme si l'incident était tout à fait normal.
Bon, est-ce que vous en avez vu assez? On va vous envoyer les plans demain.
Ça sera pas nécessaire. Notre recommandation est sans équivoque. La démolition est inévitable.
L'homme note quelque chose dans son calepin avant de le mettre dans la poche de son veston.
Et montez! Je vais vous reconduire à la gare.
Sao et Amaryllis regardent le camion disparaître au loin, derrière la traînée de poussière qu'il a soulevée.
Danger écarté. Je répète, le danger est écarté.
Ama et Sao rejoignent Vania au bureau de chantier après avoir remis l'électricité en marche.
Yo, c'était trop fou! On s'est bien débarrassé d'eux!
Le frein à main, trop drôle!
Ouais.
Ça aurait été vraiment mauvais pour notre plan qui découvre ce qu'on fait ici.
Oui, pis s'ils avaient découvert Lumen, t'imagines? Oh non, Lumen!
Vania s'élance vers la cage d'extraction, suivie des deux autres. Les deux robots y sont toujours avec les objets rassemblés par Vania. Lumen tient Décibel dans ses bras et il semble triste. Le robot inerte est entièrement recouvert de plantes dont les racines parcourent la surface.
Je m'excuse, Lumen. On n'en a pas de gouttes. On peut pas en mettre dans Décibel maintenant. Tu voulais pas venir. C'est pour ça que je t'ai dit que j'en avais. Je suis désolée.
C'est-tu moi ou les plantes ont encore poussé?
Ouais, c'est surprenant.
Sao, tu penses que la nature est agitée à cause des gouttes de lumière?
Arrête! Il y a des événements comme ça partout dans le monde, pas juste ici. C'est les changements climatiques.
Je sais bien que la planète se réchauffe, mais ce que je raconte, ça arrive pas au village plus loin. C'est comme si la nature se déchaînait juste à Alençon-Renard.
Vania considère Saomai, puis se tourne vers Lumen.
Lumen, on a pris trop de gouttes de lumière pour réparer les appareils électroniques. Je pense que c'est pour ça qu'il en reste presque plus dans le bassin.
Lumen se lève et se met à tourner en rond.
Je vois pas le rapport. Vous allez me dire que j'ai causé la mort d'une volée d'oiseaux en réparant la pédale des guitares de ton père, c'est ça?
J'ai pas dit ça, voyons. Mais regarde tout ce qui se passe. J'ai l'impression qu'on doit laisser les gouttes ici. Faut terminer de réparer Décibel, puis aider nos amis robots à sortir d'ici avant que Bilvigé fasse tout exploser.
J'ai besoin de finir
le... On n'a plus le temps pour ça, Sao. Vania a raison. Puis là, faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec mon coach pour la dernière fois avant la course, puis je suis 1000 ans en retard.
Saomai arrive chez elle fourbue. Faire l'aller-retour deux fois dans la même journée, c'est quand même intense. Elle est un peu déçue de ne pas pouvoir faire de réparation ce soir, car elle a utilisé sa réserve de gouttes pour aider la famille Bédard. Pendant que son père cuisine, elle se rend à l'atelier replacer les quelques objets réparés dans la matinée. En la voyant entrer dans l'atelier, son père la rejoint.
Salut, la réparatrice en herbe. T'aurais pas une nouvelle méthode secrète à partager avec moi? J'ai rendu son télescope à Madame Rodriguez. Elle m'a dit ce matin, et je cite, qu'elle a réussi à voir les calottes glaciaires de Mars. Comment t'as fait pour le réparer aussi vite? Je lui avais dit qu'on n'aurait pas le temps de recevoir les pièces de rechange avant le déménagement.
Van Piama m'aide. Pas. Je vois qu'on reçoit encore plus de commandes que d'habitude. Est-ce que ça veut dire que la chef veut bien? On peut la garder?
Pour l'instant, oui. On a triplé les demandes grâce à tout ce que tu répares. Mais je voulais te dire... Saomai, la dernière chose que je veux, c'est fermer l'atelier. Tu le sais bien.
Mais pourquoi on part d'abord?
L'argent et d'autres raisons que je t'expliquerai bientôt. Je sais que toi aussi, tu l'aimes l'atelier. C'est un beau rêve, mais des fois, il faut mettre ses rêves de côté. Du moins pour un moment.
Fait que tu vas abandonner ton rêve pour des raisons que tu veux pas m'expliquer.
Pour l'instant, oui, c'est ça.
Les épaules un peu basses, son père la quitte, appelé par l'odeur du souper. En soupirant, Saomai parcourt l'atelier des yeux. Elle est venue ici si souvent ces derniers jours qu'elle connaît les objets par cœur. Le seul objet qu'elle n'ait jamais considéré comme une réparation potentielle trône au sommet de l'étagère centrale.
Mais oui!
Le vieil émetteur radio de son grand-père. Le fameux grand-père qui avait lui-même son propre atelier de réparation quand le père de Sao était tout petit. Saomai a chaud tout d'un coup. Elle vient de trouver l'argument imbattable pour convaincre son père de rester, de continuer à entretenir son rêve à Lanceau-Renard. Elle écoute à peine les conversations qui ont lieu autour de la table ce soir-là, pas plus qu'elle ne porte attention à son frère qui lui pose une question.
Hey Sao, t'avais pas quelque chose ce soir, toi?
Je sais pas, non.
Dans sa tête, un plan se formule. Mais en premier, quand tout le monde dormira, elle se lèvera en faisant attention de ne pas faire de bruit. Descendra à l'atelier, puis s'emparera de la radio. Son père va enfin comprendre. À 30 minutes de là, Amaryllis est prête. Le groupe mixte 11-14 est appelé au départ de la course. Elle contemple la piste de terre devant elle, serre les mains sur le volant et remonte sa pédale droite. Elle est prête pour un départ puissant.
Vous allez voir ce que la chef des pédaleuses intergalactiques peut faire.
Ça y est, elle file à toute allure, faisant des sauts comme une vraie championne. Le premier tour achève et elle prend le plus gros jump de la course parfaitement. Elle prend même de l'avance sur le peloton. Est-ce que ses amis l'ont vu? Elle les cherche des yeux dans les gradins. Vania est là. Ses amis sont venus. En prenant une seconde de trop, Amaryllis remarque que ce n'est pas Saomai qui accompagne son ami, c'est Sean. Au même moment, un courseur au casque rouge la dépasse en la frôlant. Ama fait un petit mouvement de volant pour s'en éloigner, mais le prochain jump est déjà là et elle le prend avec un petit angle. Son vélo s'envole et le temps semble ralentir. Elle s'élève dans les airs juste derrière le casque rouge. Pour l'instant, tout va bien, mais Amaryllis le sait, elle ne pourra pas faire atterrir ce saut. Son angle et sa vitesse sont incompatibles. Elle serre les mains sur le volant, enfonce sa tête entre ses épaules et le temps reprend sa vitesse normale. Elle s'écrase dans un atterrissage forcé en faisant plusieurs culbutes. Une douleur aiguë lui déchire le poignet gauche. Les autres courseurs qu'elle avait dépassés passent tous à côté d'elle.
La coureuse Amaryllis Fontaine vient de perdre son avance à cause d'une mauvaise manœuvre. Oh, attendez! Elle semble blessée à la main gauche. L'équipe médicale se met en route. Attendez, il semble que... Oui! Amaryllis se relève et embarque sur son vélo. Mesdames et messieurs, elle termine la course à une seule main!
Une chute en BMX, ça veut pas mal dire que t'arrives en dernier. Ama a été nommée coureuse étoile pour avoir terminé la course à une seule main. C'est un peu ironique d'être nommée coureuse étoile quand t'es la chef des pédaleuses intergalactiques. En plus de cette victoire de participation, elle quitte le Grand Prix BMX Turbo avec une attelle. Au moins, son poignet n'est pas cassé. Après avoir salué Vania et Sean, Ama rentre seule en vélo. Elle a besoin de temps pour elle. Ce soir, la mer est agitée. et le ciel éclairci de nuages laisse voir un million d'étoiles. En passant devant le vieux phare du village, elle repense à son enfance avec ses grands-parents. Selon son grand-père, le phare est éteint depuis 10 ans, mais il avait un faisceau clair et puissant.
Allô? Ici Maman Yoda. Y a quelqu'un? À vous.
Ama a de la peine. Sao l'a laissé tomber. À contre-cœur, elle lui répond en espérant une très bonne excuse.
Qu'est-ce que tu veux?
Oh, t'es là? Parfait. Écoute, j'ai eu l'idée du siècle. Il faut juste réparer la radio.
Quoi? Tu me laisses tomber puis tu me parles encore de faire des réparations.
Quoi? Comment ça je te laisse tomber?
Tu le savais que c'était important pour moi, la compée. Ça t'aurait vraiment tué de venir me voir. Je te gâche que tu réparais tes affaires avec des gouttes volées encore.
Non, quoi? Ta compétition? Oh, merde! Mais attends, tu comprends pas, j'ai trouvé les...
T'as du culot, ça, O'Malley. Parle-moi plus jamais de réparer des affaires.
Non, mais il faut finir la mission.
Moi? Ma mission, c'était de m'occuper de mon ami. Mais je me suis peut-être trompée de mission. Ou d'amis. Peut-être que c'est mieux que tu déménages en fin de compte. Laisse-moi tranquille, ça, O'Malley.
Attends, Ama. Attends, je veux juste te dire...
Oh, elle raccrochait. Tant pis, je vais y aller sans elle dans la foutue mine. Je vais y aller toute seule si c'est ce qu'il faut.
Cœur de cristal, un concept de Francis Gélinas produit par Couleur.tv pour Télé-Québec. Avec les voix de Justine Pierre, Zoé Croteau et Gabriel Chaumel. Conception sonore, Jean-François Bertrand Sauvé. Musique originale, Davy Simard.
Écoute tous nos balados sur balado.téléquébec.tv.